Saint Augustin. Elle est juste venue au monde au début, au principe. Comme Abel et Noé ont été, pour ainsi dire, appelés à la première heure. D'autres sont venus après eux. Abraham, Isaac, Jacob ont été appelés à la troisième heure. Ils obtiendront le bonheur de la résurrection en même temps que nous. D'autres justes, Moïse et tous ceux qui furent appelés avec eux à la sixième heure, les suivants, les prophètes, ont été appelés à l'heure de Christ. C'est la neuvième heure. Ah. Et ils goûteront la même résurrection que nous. Et à la fin du monde, les chrétiens qui sont appelés à la onzième heure recevront eux aussi et la résurrection. Le bonheur de la résurrection, et tous le recevront ensemble. Parce que la pièce d'argent, pour ceux qui ont travaillé pour la vigne, c'est la vie éternelle. Et tous jouiront d'une même vie éternelle. Dire aussi hein, que on peut dire aussi que ceux qui sont appelés à la ville, c'est c'est tous les apôtres, tous les disciples. Mais qui se sont regroupés comme ça dans l'Eucharistie, hein. Et donc à la première heure, ils ont reçu l'Eucharistie. Tandis que Jésus recevait le baptême de la condamnation du monde. Ceux qui sont appelés, qu'est-ce qui n'est pas appelé? Tous ceux qui sont appelés à la vigne, tous ceux qui reçoivent le baptême. C'est ça, je ne sais pas qu'est-ce qui disait ça. Voilà, c'est la première heure. À 9h, parce que c'est à 9h du matin, c'est l'heure où ils ont reçu le baptême. Nous recevons là. Les apôtres ont reçu une profusion de avec crainte et tremblement, mais une manière fulgurante, le renversement, j'allais dire, de toutes les grâces donné jusque-là au monde, ils ont reçu la grâce de la Pentecôte, c'était à 9h du matin. D'ailleurs, quand c'est l'office, on dit, à l'heure où les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, c'est-à-dire reçoivent le baptême que Marie a reçu à la première heure, avec Jean, au pied de la croix. L'homme de midi, on l'a bien compris, c'est la parousie. Et l'heure de cinquième, à 5h, c'est quand c'est l'heure de la transverbération universelle. De midi, c'est l'heure de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Ah, c'est vrai. Tous ont droit à la vie éternelle, tous ceux qui sont fidèles au baptême. C'est la première heure, c'est-à-dire tous ceux qui font raison, tous ceux qui rentrent dans l'union transformante. Tout autant, voilà les premiers et les derniers qui deviennent les premiers. C'est tous ceux qui reçoivent dans le oui de la Jérusalem dernière, le corps spirituel venu d'en haut. Et c'est sûr, il faut reconnaître une chose, c'est que Saint Joseph, qui est la première heure, a reçu autant que Dismas, qui est la dernière heure. Le bon larron. Ils sont tous deux rentrés, j'allais dire, en même temps. Dans le paradis de la vision béatifique. Écoutez, m'excuse, mais... Ah. De rester comme ça... collé à Jésus. Par une grâce qu'on ne sait pas. Dont on ne sait pas d'où elle vient, mais d'avoir été choisi par le Père pour être dans une unité pratiquement substantielle, et transsubstantielle, pratiquement substantielle avec Jésus. Une unité avec lui, de chair et de sang, une unité d'éternité, une unité de grâce. Unité de personne. Voilà, dans un théâtre prodigieux dans le temps de notre vie. Où le change de la caillou d'en fond, le tourment des éléments stables de l'univers, parce qu'il tournoie avec en son aspiration pour bouger de leur place immobile. La matière elle-même est émue. Être transsubstancié dans une révélation de lumière et de gloire lorsqu'on est avec Jésus. Lorsqu'on Jésus nous a regardés jusqu'à... Et nous avons plongé notre vie dans son... dans le paradis de sa vision béatifique, de sa divinité. Lorsque nous avons été saisis, lorsqu'il n'y a plus que Jésus, que Jésus est tout pour nous. Parce que nous sommes saisis par l'amour qu'il est en lui. Il nous aime. Alors, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Et lorsqu'on est avec Jésus, c'est sûr. On ne s'arrête pas. Lorsqu'on a commencé, on va, avant même la mort, au-delà de la mort. C'est pas seulement, j'allais dire, pour recevoir les forces, les grâces, la dignité divine sur cette terre. La pleine divinité de notre vie, notre participation divine à sa propre personne. C'est pas parce que nous scrutons les profondeurs de Dieu, dans la puissance, les profondeurs, la pénétration, l'attardement, enfin, l'évanouissement de notre temps, de la terre, d'ailleurs de vider cette terre. C'est pas pour ça. C'est pas, à aucun moment. Quand on est avec Jésus à un moment, ça ne s'arrête. La persévérance, c'est une vertu humaine, mais l'union divine, l'union éternelle, la vie éternelle, la personne du Saint-Esprit est plus qu'une vertu. C'est plus que la persévérance. Et Jésus nous a saisis. Et nous sommes saisis par lui. Nous avons été saisis. Il nous a... Ils ont été pris. Et il faut bien le dire, nous avons été pris sans aucun mérite de notre part. Parce que la vie éternelle, elle est donnée gratuitement. L'Immaculée Conception. Cette plénitude de grâce est donnée gratuitement. Quand on y pense quand même, c'est vrai, quand vous regardez dans le mariage de Marie et Joseph quand elle avait 13 ans, c'est la Pentecôte sponsale de la nature humaine tout entière. C'est la 9e heure, enfin, c'était 9 heures. C'est Pentecôte. La personne même du Saint-Esprit a émané dans une inspiration qui était assumée à l'intérieur de l'éternité. La vie éternelle du Père. C'est un don. C'est un cadeau, enfin, je sais pas comment dire, c'est une grâce. C'est une miséricorde, c'est une bonté, c'est un. Qui n'a n'a pas été mérité par Abraham, ni par Noé, ni par Moïse. Elle a été méritée par Jésus. Elle a été méritée par Jésus parce que Jésus est avant la fondation du monde. Celui qui, en créant le monde, en créant les conceptions spirituelles, dans l'humilité substantielle du corps spirituel, donne toute sa vie et jetée dans la terre. Parce que Dieu se donne gratuitement, lui-même, lorsqu'il nous conçoit, dans sa conception. C'est gratuit. C'est pas dû. Ce qui s'est passé au mariage de... Elle avait 13 ans. Faut pas oublier que il y a eu dans le temple de Jérusalem le jour du mariage une Pentecôte. C'est une Pentecôte spensale. Donc elle n'était pas cachée au monde angélique. Hein. Au monde du face-à-face incréé des personnes de la très sainte Trinité, puisque c'était une inspiration intérieure, une inspiration d'amour en acte pur, produisant dans l'effacement mutuel l'émanation du Saint-Esprit dans un mariage de l'image-ressemblance de Dieu. Responsabilité totalement divine et incarnée, totalement éternelle et incarnée. Dans la procession de la résurrection, reçoit la vie éternelle en dernier. Parce que c'est à la fin des temps que la responsabilité est manifester à la terre tout entière de ceux qui vivent de la vie éternelle. La Jérusalem dernière est une Jérusalem sponsale, une Jérusalem spirituel est une surnaturel est une Pentecôte qui fait passer les sept dons du Saint-Esprit. Oh, c'est tout ce qui peut se scruter dans l'intime profondeur, des profondeurs de la fruition, de la joie, de l'allégresse indépassable, transactuée surnaturellement dans l'agré du Saint-Esprit. Pour ça, c'est normal, dans la dernière. C'est pour ça que alors c'est qui celui qui dit mais moi je suis pas content que le don gratuit de Dieu resplendisse et surabonde à tous ceux qui reçoivent surabondamment l'amour de Dieu. C'est que le don gratuit de Dieu est un don éternel et il est universel, bien sûr, on le sait très bien tout ça. Mais celui qui dit mais qui récrimine, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pas besoin d'être un docteur de l'Église, n'est-ce pas, pour comprendre. Même. Jésus dit, pas à tous ceux qui étaient de la première heure, il dit à un, il dit, mais mon ami, nous avons dit oui dans le premier instant, et que nous avons dit oui dans le baptême, que nous avons dit oui dans le mariage spirituel de la transformation, et de l'union avec, avec Dieu, que nous avons dit oui. Nous avons dit oui. En nous liant, oh oui, de la dernière heure. C'est ça la signification sponsale du cœur, du sang et de l'âme, de la liberté du don, de la conception. Dans la signification sponsale de ce don, ce oui traverse tout et produit le oui de la fin. Et c'est parce que je me nourris du oui de la fin dans mon oui originel, dans mon oui surnaturel, dans mon union transformante, que je suis trouvé digne de la vie éternelle. Mais si mon oui n'est pas abreuvé, si c'est pas le oui de la fin qui s'écoule à l'intérieur de mon oui originel, si c'est pas le oui éternel, hein, qui est au-delà de la résurrection, le oui de l'agneau de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui nourrit mon oui originel, à ce moment-là, bien, j'aurais reçu cette union avec Dieu. Bon, Dieu je me demande d'ailleurs si au niveau du catéchisme, ça se dit de la manière suivante. Il dit, mais Dieu n'est pas un démon. Dieu est bon, Dieu est amour. Et l'amour, c'est la cause finale, c'est la cause éternelle, c'est le principe d'éternité. Et il nous crée à partir de la cause finale. Dieu n'est pas un démon, le démon, lui, il fait les choses à partir de ce qui est dans notre dos, par derrière, d'un démiurge, Zeus, le dieu de l'Olympe. C'est comme ils ne vivent pas de la gloire, de l'amour glorieux, l'émanation du Saint-Esprit, dans l'aspiration active et effacée dans l'unité de ces profondeurs d'amour éternel de Dieu. Comme il n'en vit pas, il aspire tout ce qu'il y a entre lui et la dernière heure. C'est pour ça qu'il a besoin du sang des innocents. Mais Dieu n'est pas... Jésus n'est pas comme ça. Dieu nous est amour, c'est un amour. Il nous crée à partir de la fin. Comme on dit en théologie, on dit... l'amour créateur de Dieu, la créateur de Dieu, qui continue à l'intérieur de nous. Il vient pas derrière nous, il vient devant nous. si on aime Dieu, on est inspiré et on ne vit que de la dernière heure. Entièrement tourné vers le monde nouveau. Ah, parce que le démiurge, lui, voilà, ah oui, je crois en Dieu, je crois bien, il y a eu un bing-bang alors. Et toc. Hop. Ça se fait comme une bille. Hein. Dieu, il a une bille, il a la toute puissance et pof, ça y est, derrière nous, il a créé le monde. Mais le Big Bang, pas derrière nous. Le Big Bang. Le Big Bang, Dieu a créé le ciel. Et Dieu dit, Dieu est amour, Dieu crée lui-même ce qu'il a lui-même en lui-même, d'une manière réelle. Il crée le ciel spirituel, là, état pur. Il crée le monde angélé. Et c'est curieux, ça, hein, tu peux comprendre ça. C'est que, aussitôt, il y a eu la lumière, et le jour et la nuit. Il fallait bien créer la terre, puisque celui qui est à l'image et ressemblance de Dieu dans ses attributs substantiellement parlant, à un moment s'exalte lui-même. Donc il fallait un univers pour ne se cacher. Dans sa perdition, hein, c'est ça. Pour se séparer de Dieu, donc le démon, oui. Alors à ce moment-là, il y a eu un commencement à l'univers de la terre. S'il n'y avait pas eu la liberté angélique, celui qui dit non, c'est pas certain qu'il y ait eu un commencement divin à la création de l'univers. Alors la terre a été créée. Le Christ, Jésus, a été projeté dans la terre. Comme dit Moïse, dans le principe, la vérité, le Verbe, a été jeté, précipité dans la terre. Et donc, il y a peut-être quelque chose derrière nous qui vient de Dieu, mais nous ne savons que ce qui vient derrière nous. Le Christ, oui, il a commencé dès la première heure. Mais la créateur de Dieu, il vient de la cause finale. Donc en théologie, la formule, si vous voulez savoir, je vais vous le dire, la créateur de Dieu, c'est une cause, un principe, il crée. C'est une cause formelle, artistique, transcendante. Ça vous fait... Ça, c'est là qu'on voit que c'est pas beau, hein, la métaphysique, mais c'est pas très beau, mais c'est une cause artistique, transcendante, il crée. Oui, alors il crée parce que c'est une cause artistique, transcendante. Le démiurge, donc c'est vrai que comme il a créé le monde angélique, il faut qu'il y ait que ce soit fait dans la gratuité, et quand la gratuité universelle n'est pas vécue jusqu'au don de la fin, jusque dans la cause finale, qu'on voit pourtant. À ce moment-là, il faut qu'il y ait de la splendeur, Et la splendeur, elle a un commencement qui est derrière nous. L'harmonie de la splendeur de la beauté. La beauté n'est pas un attribut divin. La splendeur n'est pas un attribut divin. L'amour, oui. Quand Dieu nous crée, il nous crée non pas à partir de la splendeur, mais la beauté, de l'harmonie, de l'unité de son amour. Il nous crée à partir de la fin. Parce que l'amour attire. Il nous crée à partir de lui. C'est pour ça que Notre-Dame de la Salette, elle disait, j'adresse un appel pressant à la terre, j'appelle les apôtres des derniers temps. Ils annonceront l'évangile de fin dernière, la bonne nouvelle de la fin. Des choses que je préfère dans l'enseignement du pape sur la sponsorité, c'est des choses que je préfère, c'est que quand l'innocence de l'homme sort des mains de Dieu, dans le principe de l'image et ressemblance de Dieu, lorsqu'il nous conçoit, lorsque nous commençons d'exister, lorsque dans notre innocence divine, la liberté du don s'exprime, dans une vastitude intérieure qui est notre oui et notre je suis. Quand notre je suis est dans la main du je suis de Dieu qui nous crée dans la fin. Nous sommes dans la fin et donc nous voyons, puisque tout est lumière, lucidité et liberté du don. Et l'amplitude même de notre existence dépasse l'amplitude angélique qui elle est même et sans limite et sans fin. Et qu'est-ce qui est plus que l'amplitude sans limite et sans fin de Louis, de l'espace et du diaphane angélique? Mais c'est l'amplitude de la responsabilité de Dieu. Parce que Dieu est plus que l'amplitude sans limite et sans fin de la splendeur de toute chose. Et lorsqu'on est dans cette liberté du don, dans la lucidité, et dans le « voici », du nom de Dieu inscrit à l'intérieur de nous, et resplendissant d'amour et de liberté dans l'échange de l'accueil du don. Nous sommes dans cette lumière de la Créateur, de l'amour, venant de Dieu dans la cause finale. Et donc nous voyons, nous sommes inscrits, et nous nous engloutissons immédiatement, nous nous plongeons délicieusement dans notre inscription dans le livre de la vie. Donc les premiers seront les derniers. C'est ça la memoria dei, hein? L'innocence divine, la liberté du don, la conception. Eh bien, la cause finale de la Créateur de Dieu, quand on n'est pas croyant, on le perçoit à l'intérieur de nous comme étant derrière nous. Ben oui, après tout, ben Dieu m'a créé, ça fait, voilà, je suis en train de fêter mon 48e anniversaire, vous vous rendez compte, c'est pas beau ça, 48 ans que Dieu m'a créé, mais non. La Créateur de Dieu, le doigt Créateur de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Disent tous paternel d'extérieur. Ils s'enfoncent à l'intérieur de Lucifer et de sa perdition. Et puis voilà. Et il me crée. Mais il me crée à partir de la fin. pour la honte de l'Antichrist et la honte de Lucifer. Il me crée à l'intérieur de son manque d'humilité finalement, de son manque d'amour. Son manque d'amour de Dieu. C'est important de savoir ça parce que c'est du catéchisme, mais si je veux faire un acte d'adoration, il faut que je regarde vers la cause finale, vers la vie éternelle. Alors je reçois. Le salaire du premier jour, la première heure. Et en fait, celui qui reçoit le salaire de la première heure, celui du salaire de la deuxième, cinquième, dixième et cinquième, c'est chaque créature spirituelle, chaque enfant de Dieu est appelé. C'est pas plusieurs catégories, bien sûr que non. Il y a une seule, un seul Christ, un seul corps, une seule âme, une seule divinité, une seule vie éternelle, une seule spensalité, une seule jubilation, un seul don. Une seule cause méritoire. D'être avec Jésus, c'est formidable. Dès que on est avec Jésus, on est inséparé de toutes les splendeurs, d'une part, mais aussi de toutes les gloires, victoire de l'amour de Dieu, surtout. L'univers lui-même est condamné, si je puis dire. Être recueilli, aspiré et emporté dans la louange et la gloire éternelle de l'au-delà de la résurrection. À la honte du démon. Alors c'est important pour faire un acte d'adoration, parce que celui qui adore, ben il se met sous la dépendance, il s'engloutit à l'intérieur de celui qui l'adore, il touche la fin, la puissance du Christ, de Jésus en lui, et Jésus touche la fin, s'engloutit en elle, il s'engloutit totalement dans l'au-delà de la résurrection, il s'engloutit eucharistiquement, mais dans l'acte pur de l'amour, il s'engloutit, et quand on a touché par Jésus, il y a une seule conception d'amour éternel dans l'au-delà de la résurrection. Et donc quand je fais un acte d'adoration, je touche ce qui est au-delà de la résurrection. Je touche. Et j'adhère. Et je pénètre et je ne dépends que de cette vie éternelle. Et il y a une unité qui est tellement parfaite que du coup il y a une joie. Et cette joie épanouit l'acte d'adoration en acte d'adoration véritable, en esprit, en vérité. Et opère une attraction véhémente, irrésistible, de tous les temps et de tous les lieux, à l'intérieur de cette joie, de la dépendance totale, vis-à-vis de l'amour de Dieu qui s'est lui-même épanoui dans l'unité de la vie éternelle, des actes d'adoration. S'y engloutir, s'y déverser, s'y épanouir, mais s'y introduire, s'y laisser prendre, et disparaître délicieusement, jusqu'à y être parfaitement, dans la vie éternelle de cette terre. Parce que si tu n'adores pas, tu ne fais même pas partie de la première heure. Et dans cette adoration, à ce moment-là, les engendrés de Dieu que nous sommes sont supervenus du Saint-Esprit et de l'éclatement du Verbe de Dieu dans sa spiration comme elle poussait. Si nous ne sommes pas le terme terminant de cet acte d'adoration, comment est-ce qu'on pourra aller? Comment est-ce qu'on pourra aller avec le Christ, avec le Verbe de Dieu, dans le fruit de la responsabilité incrée elle-même de Dieu? Voilà quelque chose qui s'est produit au jour du mariage de Marie avec Joseph. Une émanation, une adoration en esprit en vérité, mais qui a été jusqu'à... jusqu'à la transverbération éclatante, qui n'est pas un éclat, un feu d'artifice de beauté, mais qui a fait éclater tout ce qui est disparaître, et complètement tout ce qui n'est pas. Cette Pentecôte intérieure de Dieu donnée à toute créature qui dit oui. C'est elle qui a provoqué la mort de Jésus sur la croix. Bon, d'être avec Jésus, c'est sûr, on le sait, c'est une autre vie, nous sommes une autre race. Ethnos, c'est comme dit Saint Luc, c'est une ethnie différente. Mais il faut faire des actes d'adoration. Si on ne fait pas des actes d'adoration, on ne peut pas être dans la neuvième heure du Saint-Esprit, la Pentecôte apostolique. On ne peut pas être dans l'admiration naturelle de l'ajustement parfait, éternel et final avec Dieu et avec tout ce qui existe. On ne peut pas être dans l'espérance de l'heure de midi. On ne peut pas être non plus dans la charité de la dernière heure. On ne peut pas se réjouir de la condamnation d'un pécheur quand on est dans la cause finale. Mais si un pécheur se convertit, qu'il échappe à la torture, au supplice éternel, mais c'est une joie totale. Notre ennemi est sauvé au même titre que moi dans la jubilation éternelle. C'est une joie totale. Ah, celui-là, il nous a persécutés, hein. Il va voir en jugement, celui-là. Eh non, c'est pas ça. Non, c'est Jésus, c'est pas ça. Dieu n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. On peut pas être séparé de Jésus. Une fois qu'on a été en Jésus, qu'il nous a saisi, que Jésus est tout pour nous, on ne peut plus se séparer de lui. Enfin, on ne veut plus en tout cas se séparer. Et mais c'est un choix qu'on a fait dès le premier instant. Et plus la perdition de Satan, Lucifer, devient substantielle, plus ça devient clair. Et c'est pour ça que la fin de la Jérusalem dernière, dans laquelle nous rentrons, est tellement proche de la conception de notre oui originel intérieur, l'éternité de Dieu, dans la cause finale. Et elle est sponsale, forcément. Sponsale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'autre qui fait toute ma vie. Donc l'autre, c'est tout autre qui fait toute ma vie. Et je l'accueille. C'est ça, hein? L'autre, ma moitié sponsale, c'est oui, donc je la reçois. Elle s'abandonne. Elle se donne. Elle s'abandonne. Et elle se donne à la liberté du don et qui dépasse la considération de sa propre personne. Et moi, je l'accueille comme ma moitié sponsale dans l'abandon, dans son abandon lui-même à l'intérieur de moi. Et il ouvre en faisant cela et moi dans l'accueil de ce don et la réciprocité. Il ouvre en moi la possibilité de la réciprocité du don. Dans la disparition de moi-même, avec un même degré de profondeur, dans l'abandon et le don de moi-même pour ne plus exister que dans son existence, dans l'existence de son don, qui lui-même s'en renouvelle, dans une profondeur toujours plus grande, c'est ainsi que la vie éternelle est un échange dans l'accueil du don sponsal qui ne cesse de s'intensifier. Dans la joie éternelle. Imaginez quelqu'un qui vit comme ça, de ce théâtre, de l'échange d'accueil du don prodigieux dans la vie éternelle de cette terre, et qui se réjouit de ce qu'un pécheur soit châtié. C'est impensable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. C'est pas venu pour condamner, juger le monde, c'est venu pour sauver le monde. Et oui, je veux donner au dernier qui simplement dit, mais oui, un seul petit rien du tout de oui. Et je donne à lui autant que je donne moi, Dieu le Père. Je donne à mon Fils Jésus-Christ dans la gloire éternelle de la vie incréée de notre don. C'est extraordinaire, ça. Puisqu'on est attaché à Jésus, on ne s'en détache plus.